On fait les choses dans l'ordre, il est midi sur Beurre FM.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, vous savez, ces trois lettres veulent dire à votre santé. J'ai envie d'une émission qui donne la pêche en ce début d'année. J'ai invité Charlotte Savoureux. Bonjour, vous êtes la bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous publiez l'année du déclic et si c'était la vôtre aux éditions Ballant. Alors vous êtes journaliste, rédactrice en chef, présentatrice, spécialiste de bien-être. J'en suis même troublé tellement vous dégagez le bien-être. Et finalement, on se dit, un livre d'animatrice télé, est-ce que c'est bien sérieux? Alors que vous expliquez que vous aviez le choix du sujet et que le choix de ce sujet, c'est un engagement pour vous.
Alors moi, mon métier avant tout, c'est d'être journaliste. Hein. Quand on est animatrice en télévision, ça n'est qu'une activité. Moi, mon métier, c'est d'être journaliste et ce qui m'intéresse, c'est la vie telle qu'elle se joue sur le terrain du quotidien. Mmh. Voilà. Donc je me suis toujours vraiment passionnée par les parcours de vie parce que je trouve que la manière dont les choses se tisent, dont les choses s'actionnent permet finalement d'ouvrir l'horizon. Donc finalement, j'ai juste exercé en écrivant ce livre, j'ai juste exercé ma profession de journaliste.
Vous avez rencontré 50 personnalités qui vous ont ouvert ce que vous appelez, vous, le champ des possibles. 50 personnalités, alors il y a des connus et des pas connus. Il y a des gens qu'on peut se demander ce qu'ils font là.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la diversité. Je ne suis pas une grande adepte du dogmatisme. Voilà, je ne crois pas à une personne qui saurait déjà finalement tout sur la vie. La vie est tellement subtile, nous avons tous des parcours tellement différents, des enfances singulières. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est finalement d'ouvrir l'horizon et d'offrir au lecteur une diversité de sensibilité, une diversité de tonalité. Et finalement, c'est une manière aussi d'ouvrir le champ des possibles, c'est une manière aussi de donner aussi une maturité au lecteur. Moi, je ne crois pas tellement à l'infantilisation, à des règles toutes faites. Voilà, donc je crois à l'expérience et je crois aussi à la contagiosité, à l'exemplarité. C'est pour ça que j'ai voulu finalement donner la parole à toutes ces personnalités dont on connaît en général le versant sud, c'est-à-dire la réalisation, la mise en lumière. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller découvrir le versant nord. C'est parfois le chemin tortueux, délicat, qui nous mène vers la réussite. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est véritablement le cheminement et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, eh bien, il y a ce déclic qui nous permet de changer la donne, qui nous permet de passer de l'intention à l'action, qui nous permet de transformer l'épreuve en expérience de vie, qui permet de transformer des non en oui. Donc, véritablement, rappeler que la vie est une aventure pour tous, sans exception, et que nous sommes tous à l'école de la vie, que nous soyons connus, que nous ayons réussi notre vie, que nous ayons déjà atteint la finalité de notre réalisation. J'ai voulu rappeler que nous étions tous à l'école de la vie, sans exception.
Bien. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais parce que vous êtes journaliste, donc vous dites.
Et vous savez que Georges Marchais disait vous avez vos questions, j'ai mes réponses.
Et vous êtes une technicienne de l'antenne, donc. Ah ouais. Mais vous dites quand même que pour écrire ce livre, vous avez dû ajuster votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ajuster sa vie ?
Eh bien, tout simplement, rebattre les cartes du jeu. Moi, je ne suis pas une grande adepte de la linéarité. C'est-à-dire qu'à un moment, on est aujourd'hui dans une société plutôt qui nous incite à nous protéger, qui nous incite à brider notre potentiel. Finalement, en sécurisant notre quotidien, on en vient à brider notre potentiel. Et moi, c'est tout l'inverse. J'ai voulu, finalement, au contraire, c'est-à-dire donner la possibilité d'accéder à un potentiel, de rebattre les cartes. Et ce qui a été mon cas, finalement, ce que j'ai vécu est véritablement ce qu'est un déclic. C'est-à-dire que je suis passée du verbal à l'écrit, je suis passée du travail collectif à un travail solitaire qu'implique l'écriture d'un livre. Donc moi-même, j'ai un moment rebattu les cartes et la vie est tout sauf linéaire finalement. Quand on regarde, il suffit de regarder à l'extérieur, il y a des saisons et comme il y a des saisons dans la nature, il y a des saisons dans la vie. Voilà, et c'est important de rebattre les cartes.
Un chapitre de votre livre. Alors c'est une citation du Mahatma Gandhi qui est déclencheur de votre livre. Vous dites « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah bah, tout simplement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nous aspirons tous à une société prospère, dynamique, joyeuse. Sauf que la société, elle est représentative de ses individualités. Donc quand on aspire à une société qui est dans cette dynamique-là, il faut soi-même se l'offrir pour sa propre trajectoire de vie. On imagine toujours que les choses viennent de l'extérieur, mais nous sommes les premiers acteurs de notre trajectoire et de notre destinée. Donc finalement, j'ai voulu, c'est pour ça, ouvrir le champ des possibles à 66 millions de Français, parce que si chacun devient finalement finalement acteur de sa propre trajectoire. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer une société et qu'on va pouvoir finalement lui donner les valeurs auxquelles on aspire. Mais d'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même.
Alors, votre livre, c'est un livre de développement personnel, c'est un livre de coaching. Ou à quelle famille appartient-il ?
Alors justement, moi au démarrage, quand je l'ai écrit, je voulais que ce soit... Alors évidemment, j'ai un parcours vraiment dédié à l'art de vivre et j'ai voulu en faire avant tout un livre de société. Parce que je considère qu'aujourd'hui, le développement personnel n'est pas un sujet de psychologie, c'est un sujet sociétal. C'est-à-dire que l'art de vivre, c'est pas un sujet personnel, intimiste, élitiste. C'est-à-dire que tous, a priori, c'est une ambition collective que... d'essayer d'être heureux au cœur de son histoire. Et je ne suis même pas dans l'idée du bonheur à tout prix qui finalement crée beaucoup de désillusions. Je suis déjà dans l'idée d'être bien dans son histoire, qu'on soit artisan dans le Larzac ou qu'on soit manager dans une entreprise du CAC 40. Juste être bien dans son histoire. Donc ce livre, c'est une manière finalement de donner des clés à chacun pour pouvoir actionner les choses qui vont nous permettre de nous élever et qui vont nous permettre finalement d'accéder à notre réalisation personnelle.
Aligné avec ces valeurs, est-ce que vous avez réussi, donc, à travers les 50 interviews que vous avez menées, à donner une définition de ce que c'était la réussite ?
Alors moi, je suis pas tant sur le terme de réussite, je suis plutôt dans l'idée de la réalisation. La réalisation...
Tous les gens que vous montrez, ce sont des gens qui ont réussi.
Oui, mais qui ont accédé à une forme de réalisation, c'est-à-dire personnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Parce que la réussite est souvent associée à une réussite financière. Moi, je suis dans l'idée d'une réalisation personnelle qui peut parfois, en effet, passer par une réussite financière.
En gros, c'est le cas pour quasiment tous ceux que vous avez interviewés. Ils ont tous réussi. Alors, ils ne sont pas tous millionnaires en euros,
mais... Non, mais par exemple, si vous prenez quelqu'un comme Philippe Croizon, qui finalement a traversé cette personne handicapée, amputée des quatre membres, qui a traversé la Manche à nage, qui a relié les cinq continents à la nage, on peut pas dire qu'il ait une réussite financière, qu'il ait une réussite. Il a une vraie réalisation, puisque ces événements lui ont permis... En effet, finalement, de prendre un nouvel élan et de redevenir acteur de sa vie. Voilà. Donc, c'est pas forcément une réussite financière. La réalisation, c'est finalement quand on arrive suffisamment bien à se connaître, à savoir qui l'on est, pour aller vers ce que l'on convoite. Voilà.
Mais la réussite, c'est pas tabou comme mot ?
En France, peut-être.
Parce que c'est pas du tout tabou. Enfin, je veux dire.
Non, mais vous savez, il y a toujours l'idée de la réussite.
Moi, je les prends les 50 comme des gens qui ont réussi. C'est des gens qui font partie. Voilà.
J'aime bien toujours réajuster ce terme de réussite. Voilà, parce que c'est vrai que.
On l'oppose toujours à réussir dans la vie et réussir sa vie.
Mais souvent, j'ai le sentiment que se réaliser, ça passe par soi-même, alors que la réussite. On peut imaginer qu'elles viennent davantage de l'extérieur. Alors, je pense qu'on en est le principal acteur et instigateur.
Donc, il n'y a pas besoin de venir d'une famille d'être un fils d'eux pour réussir dans la vie.
Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a...
C'est peut-être la leçon aussi de votre histoire.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un conditionnement, évidemment. Il y a un conditionnement de départ, un conditionnement social, un conditionnement parental. Mais moi, ce que je démontre à travers ce livre, c'est que finalement, rien n'est figé ni limité et que les seules limites sont celles que l'on se donne. Et que nous avons tous un potentiel intrinsèque qui va au-delà de notre conditionnement social et familial. Et que finalement, ne pas exploiter nos ressources, nos richesses, c'est finalement habiter, j'aime bien cette phrase, c'est finalement habiter dans une hutte alors qu'on possède un palais. Et nous avons tous la capacité, et moi j'aime ce terme, à nous transcender. Voilà.
Alors qu'est-ce que ça veut dire transcender ?
Transcender, c'est finalement s'élever, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ et c'est de ne pas rester figé. Et je trouve que la société dans laquelle on est aujourd'hui, qui est une société peut-être où il y a beaucoup de peur et qui en vient finalement à nous scléroser, je trouve que justement elle vient à nous figer. Or, c'est quand on provoque des opportunités, dès lors qu'on est dans la dynamique d'action, c'est là où on va se créer des opportunités. Moi, je ne crois pas à l'attente, je ne crois pas à l'espérance, je ne crois pas à l'assistance, parce que tout ça nous place dans une posture d'infantilisation, voilà, qui nous empêche finalement d'aller décrocher notre propre victoire personnelle. Moi, je crois véritablement aux vertus de l'action. C'est-à-dire que c'est un livre qui n'est pas dans un optimisme béat et nié de « oui, la réussite, c'est pour tout le monde », etc. Ce livre s'inscrit dans la dynamique opti-réaliste. C'est-à-dire que moi, je rappelle, hein, que je suis journaliste, donc je ne suis pas là à proposer du bonheur, de l'optimisme à tout prix. J'ai voulu intégrer du réel, on n'est pas dans le conceptuel, j'ai voulu intégrer du réel avec associer le réel à l'optimisme.
Il y a quelque chose qui revient dans votre livre. Alors, j'ai bien compris que vous n'aimiez pas le mot réussite.
J'ai aucun rejet de ce terme-là, mais j'aime toujours bien le réajuster pour que ce soit cohérent avec l'énergie que j'ai souhaité insuffler dans le livre.
Voilà. En tout cas, tous les portraits, il y en a 50 dans votre livre que vous nous proposez, ce sont des bosseurs. Et tous ces gens qui sont arrivés, ils ont tous bossé. Ils n'ont pas réussi par hasard. C'est quand même beaucoup la morale de l'histoire. C'est que c'est des gens qui sont des coureurs de fond.
Oui, alors, le point de départ, donc en effet, ils ont travaillé, mais le point de départ, c'était leurs valeurs. C'est-à-dire que c'est un livre qui porte des valeurs. Quelles sont ces valeurs? C'est le courage, c'est la persévérance, c'est l'audace, c'est la confiance. Et aujourd'hui, on est dans une société dans le sentiment que, il faut être courageux, mais le courage, c'est une valeur extraordinaire. Mmh. Le bonheur vient de l'effort surmonté. Regardez un athlète, là, bientôt, les Jeux Olympiques, c'est formidable. Finalement, d'accéder à une réalisation, à sa réussite, quand on a mis autant de temps à travailler pour ça. Donc aujourd'hui, on a le sentiment qu'il faut avoir les choses très rapidement. Moi, je pars du principe qu'il faut le vouloir vraiment et longtemps. Vous voyez, on passe sauf très
que,
vite.
Oui, mais sauf que comme on ne montre les gens et on ne les médiatise, hein, ou on ne les expose qu'à partir du moment où ils y sont arrivés, on ne voit pas tout le chemin qu'ils mènent. Donc, on a l'impression qu'ils ont réussi du jour au lendemain. Mmh. Alors que derrière, il y a effectivement de la persévérance, de l'entraînement, beaucoup d'entraînement même, et beaucoup d'échecs.
Exactement. Il y a tout ce cheminement. Et de toute manière, il n'y a pas de vie réussie sans échec. Hein, parce que l'échec contient toujours le germe de la réussite. Et d'ailleurs, moi, je n'aime pas ce terme échec. Je préfère le terme expérience. Je préfère les termes de leçon. Parce que finalement, ce sont toutes ces expériences qui nous permettent un moment d'aller vers notre réalisation et de réajuster finalement notre cible et notre trajectoire. Et souvent, les moments délicats de notre vie, on a le sentiment que finalement, ça nous freine parce qu'il y a un moment, ça ne correspond pas au scénario auquel on avait pensé pour soi. Mais moi, je trouve que ces moments-là, ils sont aussi formidables parce que c'est au cœur du désert qu'on va chercher le geyser, d'une certaine manière. J'aime beaucoup cette phrase d'Albert Camus qui dit « C'est au cœur de l'hiver que j'ai découvert en moi un invincible été. » Et c'est souvent face à l'adversité qu'on découvre à quel point le potentiel qui sommeille en nous, voilà, et qui n'est pas exprimé parce que souvent on a des peurs, donc on préfère rester sur des petits précarés et sur des acquis, sauf que le jour où la vie s'en mêle, elle vient créer ces petites secousses sismiques qui, comme j'aime bien le dire, créent ce triptyque, à savoir qui vient nous bousculer, nous réveiller, nous éveiller et nous élever pour nous révéler. Voilà. Donc ces petites secousses sismiques, il faut aussi les accueillir parce que parfois la vie c'est mieux pour nous ce qui nous est favorable et la vie a souvent aussi beaucoup plus d'imagination que nous-mêmes pour nous-mêmes.
Oui, donc ce n'est pas des choix.
Si, c'est-à-dire que la vie, j'aime beaucoup d'ailleurs Éric-Emmanuel Schmitt qui est dans le livre, qui dit que la vie est faite de circonstances et de choix. Les circonstances ne dépendent pas de nous. Les choix, en revanche, dépendent de nous. Face à une situation délicate, on a deux possibilités. Soit on se raccroche aux branches du passé, et en général, c'est plus long et c'est plus douloureux, puisqu'en général, ce qui nous met, lors qu'on est en résistance, on est en souffrance. Soit on décide de pagayer dans le sens du courant de la vie, et autant pagayer dans le sens du courant de la vie, puisque avec ou sans nous, la vie continue, et autant que ce soit avec nous.
Sur l'échec, hein, vous citez également Thomas Edison qui dit « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas ».
Voilà, exactement. Il faut savoir que ces petits moments délicats qui servent finalement notre trajectoire, c'est-à-dire que moi je pars du principe, c'est qu'on est vraiment à l'école de la vie et que chaque jour, on a ces apprentissages qui vont nous permettre finalement d'aller à notre rencontre et qui vont nous permettre aussi d'affiner nos envies, notre trajectoire. Évidemment, à 45 ans, on n'est pas la même personne qu'à 25 ans. Donc, il faut aussi finalement aller à sa rencontre pour pouvoir se déployer et déployer nos ailes.
C'est le début de l'année, hein. On voulait donc un livre qui donne la pêche. Charlotte Savoureux, notre invitée, son livre s'appelle « L'année du déclic », sous-titré « Si c'était la vôtre » aux éditions Ballant. Vous pouvez témoigner d'ailleurs au 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Beurre FM. 2018, c'est l'année du déclic. En tout cas, c'est le titre du livre de mon invité Charlotte Savreux, l'année du déclic. Et si c'était la vôtre aux éditions Ballant, 50 personnalités ont été interviewées, vous aura raconté des parcours. Est-ce qu'il y a une trame, finalement, quelque chose qui les unit, ces personnalités?
Écoutez, je dirais, ce qui les unit, c'est finalement à un moment, c'est que une situation délicate leur a permis, a été le tremplin de leur réalisation. Voilà.
Donc il y a toujours un moment, ce que vous appelez le déclic.
C'est ce que j'appelle le déclic, c'est-à-dire que le déclic, on m'a souvent dit, bon, c'est quoi? Le déclic, c'est du courage, c'est de l'audace, c'est de la persévérance, c'est de la conviction. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on décide, soit par conviction, soit pour renouer avec un désir, soit en quête de reconnaissance, soit par folie, soit aussi par insatisfaction. Parce que j'aime bien aussi l'insatisfaction, parce que je trouve que c'est l'insatisfaction qui véritablement crée l'action. C'est-à-dire qu'à un moment, ces personnalités, voilà, elles ont eu un levier qui les a incitées à actionner ce déclic. Et souvent, on me dit, mais moi, j'ai envie de plein de choses, surtout au démarrage d'une année. On a tous envie d'actionner des déclics, qu'ils soient personnels, professionnels. Et souvent, on me dit, j'aimerais bien que quelque chose arrive. Sauf qu'il ne faut pas, je dis souvent, que de la vie, il faut à la fois en être digne et ne pas être dupe. Être digne, c'est mettre toute son énergie au service de sa vie. Et ne pas être dupe, c'est que la vie est une aventure avec des hauts, avec des bas, avec des facilités, avec des fébrilités. Et que finalement, le talent, c'est de l'aimer dans toutes ses nuances et d'être à la hauteur dans toutes les circonstances. Et toutes, finalement, toutes ces personnalités, à un moment, elles ont eu cette conviction, cette soif de vie qui leur a permis à un moment de se transcender. Je dis souvent que le déclic, c'est finalement quand l'envie devient plus forte que la peur. Et ne pas être dupe du déclic, c'est qu'on aimerait tellement que les choses viennent de l'extérieur. On aimerait que le téléphone sonne, on aimerait faire la rencontre hasardeuse, on aimerait que ça vienne de l'extérieur. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes seuls et toujours acteurs et instigateurs du déclic qui nous concerne. Parce que la vie teste aussi notre persévérance, notre capacité aussi à aller décrocher notre victoire, sauf que ce qui est formidable, une fois qu'on a actionné ce déclic sur un plan vraiment intime et personnel, ce qui est formidable, c'est que la vie nous accompagne. Et que sur le cheminement post-déclic, nous allons avoir à notre portée des synchronicités, des opportunités qui vont accompagner notre cheminement. Alors après, à nous aussi de les saisir. J'aime beaucoup cette citation de Coluche qui disait « À ceux qui disent ne pas avoir de chance, demandez-leur le nombre de fois où la chance est passée pour rien. » Voilà. Donc le déclic, nous en sommes toujours principal, instigateur, acteur. Quand on fait un pas dans la vie en fait 10 pour nous. Mais le premier pas, il dépend de nous.
D'accord. Même si les rencontres peuvent dépendre du hasard.
Oui.
C'est après, voilà, c'est à nous de nous emparer de ces rencontres.
Voilà,
saisir les opportunités.
Exactement, c'est ce qu'on appelle l'idée de saisir les opportunités. C'est-à-dire que parfois on se dit « Ah, mais d'autres personnes ont plus de chance que nous ». Non, c'est juste que ce sont des personnes qui se mettent davantage en action que les autres. Et c'est en se mettant en action qu'on va provoquer, qu'on va se créer des opportunités. Et finalement, les gens prétendument plus chanceux le sont uniquement parce qu'elles sont dans une dynamique d'action. Donc moi, je crois véritablement, justement, à l'idée de se mettre en action. Et l'action, elle dépend de qui? Eh bien, elle dépend de nous.
Quelle est la réponse que les gens ont quand on leur dit, voilà, j'ai une baguette magique et je vous propose de faire venir quelque chose que vous aimez bien, un projet, une opportunité? Qu'est-ce qu'ils répondent, les gens?
Alors, formidable, parce que c'est vrai que j'ai eu justement, dans le cadre d'une émission que j'animais, une fois une psychothérapeute me dit, mais écoutez, je demande souvent à mes patients, allez, on imagine, si tout était possible, de quoi auriez-vous envie? Qu'est-ce que vous feriez? D'ailleurs, c'est cette question que j'adresse à tous vos éditeurs au démarrage de cette année. Si tout était possible, c'est-à-dire on ne se met pas de frein, on ne se met pas d'interdit, si tout était possible,
là,
de
maintenant.
Quoi auriez-vous envie? Alors, cette psychothérapeute me disait en général, c'est la question type que je pose. Et elle me disait que la première réaction, c'est de dire, bon, non, je ne vois pas. Donc, elle relançait l'échange et souvent, ses patients lui disaient, ah si, j'ai bien quelque chose, oui, mais. Et le mais, il est en trop. Et le problème, c'est justement, je disais, dans l'idée du possible, c'est-à-dire que ce livre, c'est vraiment pour redonner le goût du possible, c'est qu'on a, moi j'ai élu le mental fournisseur officiel d'alibi. On a une capacité à se trouver des alibis pour ne pas aller décrocher sa propre victoire de manière incroyable. Mais tout ça, c'est que de la mise en scène. C'est-à-dire que les alibis, ça va être « Ah bah j'ai un crédit, ah bah j'ai les enfants, ah bah... » C'est-à-dire que, et tout simplement, juste pourquoi on cherche ces alibis ? Parce qu'on a des peurs. Et que les peurs nous figent et que les peurs nous empêchent de nous élever. Donc c'est la peur de quoi ? C'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de l'échec, c'est la peur du regard des autres. Donc il ne faut pas oublier notre capacité à nous mettre nous-mêmes une formidable balle dans le pied. Voilà, parce que finalement, on sait le terrain qui est le nôtre actuellement, sauf que la vie, c'est une aventure.
Mais ça on l'a compris, hein, et je crois qu'on va retenir dans cette émission que la vie est une aventure, mais pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour la plupart d'entre nous, peut-être que vous êtes en train d'ailleurs y réfléchir chez vous, de répondre à cette question, si tout était possible, de quoi avez-vous envie maintenant ? Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de répondre Didier, tiens, on va prendre et au hasard.
Vous savez pourquoi ?
Didier, tiens, est-ce que tu peux répondre à cette question là, maintenant, tout de suite ? Non, mais oui ou non ? Tu dis oui ou non ? Je crois que c'est non.
Non, pas dans l'immédiat, non.
Non, tu peux pas y répondre.
Non, absolument.
Donc pourtant, voilà, c'est, il faudrait que tu réfléchisses pour pouvoir donner une réponse à cette question.
Je reviens demain.
Mais vous savez que, justement, de s'offrir le choix, c'est une manière de démocratiser sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, c'est que finalement, quand on regarde le quotidien, ça devient très vite une dictature. Hein,
pourquoi ?
Pour beaucoup. Pourquoi ? C'est-à-dire, regardez comment tout est devenu linéaire, le quotidien, les gens arrivent aux mêmes horaires de bureau. Enfin, il y a quelque chose d'un petit peu sclérosé, un petit peu enfermant. Sauf que...
Mais c'est rassurant.
Ah bah oui, mais ce qui est rassurant...
C'est ce qu'on appelle la routine.
Mon cher Philippe, ce qui est rassurant n'est pas forcément épanouissant.
Ma chère Charlotte, oui.
Voilà. C'est-à-dire qu'en effet, on cherche la sécurité, parce que la sécurité est rassurante. Sauf que la sécurité n'est pas forcément épanouissante. C'est la liberté qui l'est, et tout le talent, c'est de trouver le juste doseur entre la sécurité et la liberté, parce que la liberté, elle est très agréable, mais elle est aussi très aérienne, et qu'on a aussi besoin d'ancrage, on a aussi besoin de racines. Donc il faut trouver, c'est tout le talent dans la vie, c'est à la fois de trouver ce juste équilibre entre la sécurité et la liberté.
Amine est au standard au 01 53 48 3000. Bienvenue Amine.
Oui, bonjour Philippe. Voilà. Bonjour Charlotte.
Bonjour Amine.
À vous.
Meilleurs vœux Amine.
Meilleurs vœux à vous aussi. Je vous suis beaucoup Philippe. J'adore vos émissions. Et là, le hasard fait bien les choses. Je suis en train d'écouter j'ai entendu le nom de Charlotte, sachant que j'ai travaillé avec elle sur Directive. Alors sur moi, ouais, elle doit se rappeler de moi.
Vous faisiez quoi, Amine ?
Alors moi, j'étais technicien plateau.
Ouais.
Voilà, aux alentours de Navon. C'est moi qui s'occupais de toute la décoration de DH8.
D'accord.
Alors,
oui.
Voilà, je faisais votre émission de bien-être.
Exactement, alors, voilà, que j'ai porté pendant 5 ans, voilà, en quotidienne, comme Philippe, voilà, 52 minutes. Et c'est ce que je dis souvent, c'est une émission qui a été formidable pour les téléspectateurs, parce que j'avais une ligne éditoriale très engagée et qui a été pour moi aussi une formation accélérée, puisque j'étais très jeune à l'époque et j'ai eu vraiment le bonheur ultime de rencontrer des hommes et des femmes d'expérience. Et je sais à quel point cette émission était vraiment appréciée de la technique, et à quel point on était une belle et grande famille tous ensemble.
Ma matinale, c'est magnifique et vous serez toujours jeune. On est de la même génération, 78. Alors, en fait, je me permets de vous appeler parce que je trouve que votre livre est magnifique.
Merci.
Ce que vous dites, c'est vraiment à sa place. C'est-à-dire, moi, je serai le premier à acheter votre livre pour une raison que, quand même, je connais un peu votre parcours, sachant que j'ai travaillé avec vous. Et le deuxième point, ce que vous dites vraiment bien à sa place dans notre société aujourd'hui. Et sur le point où je suis d'accord, en fait, sur tout ce qui se passe quand l'individu, on l'inflige des lois, des règles. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il arrive à avoir la peur. Et c'est pour ça que les choses sont compliquées. Là, je reviens à la question de Philippe. Pourquoi les gens réussissent et pas d'autres ? Parce que la vie de quelqu'un, ça se passe à la naissance ça se passe pas à 30 ans ou à 25 ans réellement. C'est-à-dire si le coach il est raté quand le gamin il a 5 ans ou 3 ans ou 10 ans, ça va le suivre toute sa vie. C'est-à-dire ça, je le dis en général. Et moi, ça serait mon parcours aussi. Si j'avais les peurs, je serais pas. J'ai fait pas mal de choses aussi dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai l'occasion de vous appeler pour cette émission.
Mais voilà. Si je peux me permettre, on a peu importe le point de départ, on a toujours la capacité à changer la donne. Hein. Si je prends par exemple, puisque j'en parle aussi avec beaucoup d'humilité dans le livre, hein, puisqu'on est tous à l'école de la vie sans exception. On retrouve beaucoup d'anciens timides en télévision et en radio. Hein. Et moi-même, j'étais très timide enfant. Et vous voyez, il y a ce que l'on est et il y a ce que l'on devient. Voilà. Et ce que l'on est, bah, c'est finalement, dépend aussi de notre milieu social, de notre éducation, etc. Mais il y a aussi, après, ce qu'on décide aussi de devenir.
Non, mais je suis d'accord avec vous sur le principe. Moi, ce que vous dites est magnifique. Moi, je suis le premier à être convaincu de ça par rapport à mon parcours et par rapport à ce que vous dites vous-même. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je voulais dire, le point, ce que je veux apporter de là, c'est-à-dire, c'est comme vous prenez, par exemple, c'est-à-dire, en fait, l'erreur, elle ne dépend pas que de vous ou de moi ou du père. Il y a le système aussi. C'est-à-dire le modèle de la société qui mène, qui fait que c'est dur que certains réussissent et pas d'autres. Et en fait, c'est ça la difficulté de l'individu, en fait. Bien sûr qu'on peut tous réussir, bien sûr qu'on peut tout faire des choses. C'est-à-dire, si vous posez la question, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je vous dis une personne qui a 10 ans aujourd'hui, vous dites dans 15 ans, 20 ans, il sera président. Personne ne va dire oui. Vous voyez ce que je veux dire?
Même les gens qui sont autour de lui, même les gens qui sont le plus proches de lui, oui, diront pas oui.
Alors, hein, très intéressant ce que dit Philippe, attention à l'entourage, parce que souvent on nous reproche finalement l'audace ou le courage que les autres n'osent pas prendre pour eux-mêmes. Et vous remarquerez, c'est que souvent ça fait peur quelqu'un de libre, parce que c'est quelqu'un qui est insaisissable, alors que c'est quelqu'un qui est formidable, parce que c'est quelqu'un qui vous donne aussi de l'humeur, c'est quelqu'un qui vous donne de l'oxygène dans votre vie. Et finalement, une société apeurée, ça sert aussi quelques personnes. Parce que les gens apeurés n'ont pas de revendications, les gens qui sont dans la peur,
ils marchent droit.
Ils sont, sauf que entre l'acceptation et la soumission, la frontière est très floue.
En tout cas, Amine, merci pour votre intervention. Non, il y a beaucoup de monde, Amine, et je voulais simplement dire que on dit souvent que les bonnes personnes de télévision qui font ce métier, alors on dit qu'ils ont des caractères épouvantables, et on dit souvent que ceux qui sont aimés des techniciens sont des bonnes personnes. Donc, vous voyez, vous avez un technicien. Parce que, en fait, quand on travaille avec les techniciens, c'est eux qui sont votre premier public, ouais. C'est eux. Et ceux qui font le succès d'une émission, ouais, bah c'est les techniciens.
Ouais. Mais moi, j'ai toujours dit, hein, c'est pour ça que toujours la télévision me ramène toujours à la télévision. Moi, mon métier, c'est journaliste. La télévision n'est qu'une activité, un terreau sur lequel je vais exercer mon activité, mon métier de journaliste, mais je suis avant tout journaliste.
Alors, Samy, merci Amine. Samy voulait répondre, vous répondre. Bienvenue, Samy.
Ouais, bonjour Philippe, bonne année, bonne santé.
Merci.
Bonjour
Samy.
Bonjour Madame Charlotte, bonne année, bonne santé aussi. À Monsieur Kider aussi, bonne année, bonne santé, que meilleurs vœux que du bonheur. Alors moi je voudrais réagir, franchement ça fait du bien comment vous parlez Madame.
Merci.
Ça nous fait vraiment du bien, hein. Vous auriez dû même être présidente de la République, parce que franchement, tout ce que vous avez dit, c'est la vérité. Hein.
C'est amusant ce qu'on me l'a souvent dit au moment où je faisais la promotion du livre, puisque le livre est sorti en 2017.
Ouais. Si on avait des gens dans le pouvoir comme vous, je pense que les gens ils seraient apaisés, quoi. Je pense que franchement, ce que vous avez dit, c'est vrai, par rapport même au blocage qu'on se fait nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'on est complètement idiots. On a peur de l'autre. Il est là le problème. C'est pour ça que les gens, ils avancent pas.
On a peur de nous aussi. Bon,
attends, exactement, Philippe. On a avant tout...
On a peur de nous-mêmes et on a peur des autres aussi. On n'ose pas... c'est comme un chef d'entreprise, des fois, il peut faire évoluer d'autres gens dans l'entreprise. Mais les gens, ils ont peur de tout. Ils ont peur de se lancer, ils ont peur d'être propriétaires. Ils ont tout le temps peur. Ils ont tout le temps peur. Ils disent, mais demain, si j'ai pas de travail, comment je vais faire? Ils se mettent des trucs dans la tête qui sont, franchement, qui servent à rien du tout. Il faut être positif, comme dit madame. Madame, vous avez super raison, madame Charlotte.
Vous êtes savez, je vais vous dire, on est comme des animaux, finalement.
Samy, écoutez Madame Charlotte parler un petit peu, regardez.
Non, mais c'est vraiment, on est comme des animaux, c'est-à-dire qu'on a toujours peur avant de se mettre en action. Mais je peux vous garantir qu'à partir du moment où la graine a suffisamment germé et qu'on a décidé de partir décrocher sa victoire, je peux vous dire qu'on n'a plus peur. et la vie va nous accompagner, et il faut aussi laisser la vie œuvrer, parce qu'il y a le scénario qu'on prévoit, et il y a aussi la vie qui s'en mêle, et parfois on a besoin de temps, on a besoin aussi d'apprendre la patience, et c'est ce que je dis souvent, c'est que la persévérance, c'est de la confiance plus la patience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout, tout de suite, immédiatement. Parce que pourquoi ? Parce qu'on a encore peur. On a peur de quoi ? On a peur du vide. Sauf qu'il faut le vouloir vraiment et longtemps. Et on a beaucoup parlé de la peur, mais derrière la peur, il y a quoi ?
La peur de la mort.
Non, ce qui nous empêche de nous mettre en action, c'est la peur. Et derrière la peur, il y a quoi ? Eh bien, il y a l'ego.
À l'ego.
Parce que les deux sont liés. Et par exemple, si on prend la timidité, quand on voit une personne timide, souvent on a beaucoup de compassion, on a beaucoup de compréhension envers cette personne, sauf que derrière la timidité, il y a aussi beaucoup d'orgueil, parce que c'est pas de l'autre dont on a peur. On a peur de soi-même, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on aimerait projeter de soi auprès des autres.
Ah, c'est la première fois que j'entends cette approche de la timidité. Merci en tout cas, Samy, pour votre pêche. On prendra d'autres appels dans un instant. Ah, les timides sont des égotiques.
Alors écoutez, c'est Éric-Emmanuel Schmitt qui l'a partagé avec moi, qui était aussi un enfant très timide et qui à 60 ans a décidé de monter sur scène alors qu'avant il était uniquement metteur en scène. Et il m'a dit, mais vraiment la timidité, il y a aussi de l'orgueil. C'est-à-dire, donc je répète parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant de se connecter aussi à son ego. C'est-à-dire, voilà, on a peur de défaillir, on a peur, et c'est l'ego qui est en toile de fond. Donc il ne faut pas être dupe aussi de notre capacité à vraiment, à l'auto-sabotage, finalement.
On est notre propre ennemi. Charlotte Savreux est notre invitée. Le livre s'appelle « L'année du déclic » et même s'il est sorti en 2017, il est très valable pour 2018 et pour commencer l'année. Et si c'était la vôtre, aux éditions Ballant, vous avez animé une émission bien-être, mais vous ressemblez à votre émission, ça se voit. Et vous pourrez voir la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Donc si vous vous connectez, vous vous abonnez, vous verrez le meilleur de cette émission. On revient dans un instant avec vos appels au 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est le début de l'année, ça tombe bien. On parle de l'année du déclic, le livre de Charlotte Savreux. Et si c'était la vôtre, c'est le sous-titre aux éditions Ballant. 50 histoires uniques de personnes que vous avez interviewées qui ont fait de leur épreuve un tremplin pour rebondir plus fort. Moi, j'avais un patron qui disait à une époque transformer le pépin en pépite. Mais finalement, est-ce qu'il faut avoir été au fond du trou pour réussir ?
Alors moi, ce qui m'intéresse dans ces personnalités, c'est qu'elles sont arrivées là où on ne les attendait pas. Alors évidemment que le but, c'est de s'autoriser la réussite pour éviter d'être au fond du trou, pour un moment avoir à se réveiller. Dire que, je dis souvent que comme on s'endort au volant de sa voiture sur une autoroute trop linéaire, on s'endort au volant de sa vie et gare au réveil. Donc l'idéal, c'est de toujours être un peu dans une dynamique d'action et rester acteur de sa vie pour ne pas un jour avoir l'électrochoc qui nous incite à devoir nous réveiller de manière brutale. Le but, c'est toujours d'être dans une dynamique d'action, d'avoir les antennes de sortie, d'être connecté à son environnement, d'être connecté à la personne que l'on est, d'être connecté à ses envies pour éviter d'arriver au fond du gouffre pour, à un moment, donner le coup de pied qui va nous permettre de rebondir. Ce n'est pas l'objectif.
Il y en a qui s'est
escoulé. Voilà, l'objectif, ce n'est pas du tout ça. Donc, moi, je pars au démarrage de cette année. Vraiment, j'incite chaque auditeur qui nous écoute à avoir un projet. C'est-à-dire que souvent, quand une personne n'est pas bien, on a envie de lui donner soit une écoute attentive, soit de lui donner de l'argent. Sauf que la meilleure chose à lui offrir, c'est un projet. Celui qui n'a pas de projet est un ennemi pour lui-même. J'aime beaucoup cette phrase du général MacArthur, qui était un soldat de l'armée américaine, qui disait que celui qui n'a pas de projet regarde le sol, l'ensevelir. Voilà. Donc la première question à se poser au démarrage de cette année, c'est de quoi j'ai envie ? Et soyons ambitieux pour notre vie. Ne soyons pas dans la tiédeur, dans la médiocrité, dans le médium. Autorisons-nous le meilleur, parce qu'on y a le droit. Voilà, donc, mais pour s'autoriser le meilleur, il faut aussi se donner suffisamment de valeur. C'est de se dire, mais je mérite, moi aussi, je mérite le bonheur. C'est-à-dire qu'on est tous là sur Terre pour servir notre trajectoire. Et ça n'est pas du tout égoïste, le développement personnel. Moi, je pars du principe, c'est qu'en servant notre trajectoire, on sert aussi notre lignée familiale, parce que nous serons meilleurs que nos parents et nos enfants seront meilleurs que nous. Nous servons aussi la société, parce que nous mettons au service de la société, finalement, notre audace, notre courage, notre quête. Et nous servons aussi notre humanité.
Vous avez dit tout à l'heure que vous croyez à l'exemplarité. Les histoires de succès, elles sont contagieuses?
Oui. Moi, je ne crois pas du tout, et c'est pour ça que je n'ai pas du tout eu envie à un moment. Les maisons d'édition aiment bien être assurées. Donc, elles aiment des cadres.
Des méthodes.
Des méthodes. Mmh. Moi, je suis contre les méthodes. Voilà, parce qu'on a passé l'âge. Je suis contre l'infantilisation. Et je préfère, finalement, redonner au lecteur sa capacité à choisir au travers de tous ces parcours, de tous ces retours sur expérience, parce que je ne raconte pas seulement les histoires, je raconte aussi les retours sur expérience pour permettre au lecteur de gagner en temps, en efficacité, en sérénité. Donc l'exemplarité, oui, parce que moi j'aime les choses qui s'infusent, voilà, qu'on laisse infuser.
Rima, bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Charlotte.
Bonjour Rima.
Bonne année.
Voilà, meilleurs vœux Rima pour 2018.
Merci beaucoup, merci. En fait, je voulais juste vous remercier pour cette émission et pour vous dire que je vais acheter le livre et que tout ce que vous avez dit me concerne personnellement. On dirait que vous parlez de moi-même.
Mais
donc,
on parle. On parle de la vie, on parle de nous tous.
Voilà,
nous sommes tous concernés.
Ça me touche beaucoup.
Et vous voyez, Charima, quand je parlais tout à l'heure dans l'idée de s'autoriser à, il y a notamment un chapitre dans le livre, il y a les jusque-boutistes, il y a les ressorts insubmersibles, il y a les PDG, les petits devenus grands, puis il y a aussi une partie, moi, que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle les perchistes de l'ascenseur social. C'est-à-dire que souvent, on a du mal, finalement, à s'autoriser à réussir là où nos parents n'ont pas réussi. Parce que c'est finalement un moment se mettre en marge du clan. Et je rappelle que la fidélité à notre famille a ses limites, celles de notre propre réalisation personnelle. Et qu'en servant notre trajectoire, on va permettre aussi à notre lignée familiale de s'élever. Donc il faut vraiment le faire. Et souvent, les personnalités que j'ai pu rencontrer au cœur de ce chapitre m'ont souvent dit oh, « mais ça m'a demandé du courage à un moment de m'autoriser à dépasser mes propres parents et à dépasser le conditionnement initial qui était le mien. » Donc c'est vraiment un livre dans lequel il y a beaucoup aussi d'humanité.
Non, je vais le lire, puisque moi aussi je suis sur le point de réaliser mon projet.
Ah oui,
est-ce que vous voulez le partager avec nous, Rima?
Je vais pas rentrer vraiment beaucoup dans le détail, mais je vais vous raconter l'essentiel. En fait, je suis venue en France pour faire mes études. Après, j'ai perdu mon père directement, donc j'ai passé vraiment de moments vraiment difficiles. J'ai quand même fini mon doctorat. Et après, bon, j'étais sur le point de tout lâcher, mais là, je monte ma société en fini.
Wow.
Et franchement, je suis sur le point de réaliser mon projet et je suis contente. Donc je voulais partager avec vous.
Bravo.
Et merci de la confiance que vous nous faites.
Voilà.
Ça fait plaisir et on peut dire waouh.
Waouh.
Merci.
Un petit conseil quand on est au début d'une aventure où on voit que les choses vont se faire, parfois on peut aussi avoir au cœur de l'aventure des doutes et des peurs. Et
c'est
ça fait partie du processus. Il ne faut pas les craindre. Il faut juste les accueillir, mais continuer le cheminement. Et aussi, un petit conseil aussi par rapport à l'entourage qui nous regarde parfois nous transcender à un moment où eux n'arrivent pas à y accéder. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Donc, droit devant, Rima, vous y allez et vous vivez l'aventure qui est la vôtre. Et je peux vous garantir que quand on fait les choix justes, c'est-à-dire les choix qui sont en accord avec notre intimité, nos ressentis les plus intimes, je peux vous dire que la vie nous accompagne.
Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient.
Je vous appeler, désolé. C'est que, je commence le projet, je commence l'aventure, mais j'ai des doutes. Et quand je vous ai entendu parler, c'est comme si ça m'a confirmé que ce que j'essaie, c'est bon. Et voilà.
ça fait partie de l'aventure, hein. C'est-à-dire voilà. qu'au cœur de l'aventure, il va y avoir des opportunités qui vont nous rassurer, qui vont nous dire oh, « mais oui, je suis sur le bon chemin ». Puis il y a des moments où il va y avoir des doutes. Mais la vie nous regarde et la vie teste notre persévérance et notre volonté à finalement aller dans ce cheminement. Et parfois aussi, bah, les choses ne vont peut-être pas aller dans le sens auquel vous aviez pensé. Et ça n'est pas grave, parce que ça va peut-être aussi vous permettre de réajuster au mieux votre trajectoire. Donc, mettez-vous dans l'action, regardez ce que la vie met aussi sur votre chemin, et continuez avec conscience et confiance. Et moi, j'ai entièrement confiance en vous, Rima.
Merci, Rima. Ossine est là. Bienvenue, Ossine. Bienvenue et bonne année.
Bonjour, bienvenue, bonne année à tous les auditeurs, à madame qui est certes formidable, à vous Philippe, à toute l'équipe de Radio Beurre.
Ossine, qu'est-ce que ça vous inspire tout ce que vous entendez ce matin, dites-nous.
Bah moi je vous ai chopé, si je peux me permettre, j'ai chopé l'émission il y a un quart d'heure et je vois beaucoup de choses qui sont en relation étroite avec ma vie. Et puis moi, je me pose une question, finalement, c'est que les seuls échecs que l'on subit, finalement, c'est peut-être... Est-ce que ce serait pas provoqué par nous-mêmes indélibérément, dans la difficulté, on se laisse abattre, quoi.
Est-ce qu'on est les acteurs de ses propres échecs, alors, Charlotte ?
Oui, on peut parfois, justement, parce qu'on a tellement peur... Parfois, vous savez, on a peur aussi de notre propre puissance. Ça peut sembler incroyable. Hein. Parfois, quand on a été habitué à être dans des situations indélicates, inconfortables, tout d'un coup, vous imaginez le bonheur ? Ça peut être effervescent, on peut perdre aussi pied hein, dans tout d'un coup quelque chose qui est exaltant. Alors oui, donc c'est pour ça qu'il faut toujours se regarder fonctionner et même s'amuser de voir à quel point on essaye d'esquiver les choses qui pourraient nous être à un moment favorable. Et face à une situation délicate qui peut paraître comme un échec, qui n'en est pas un, qui est une expérience, 90% de l'issue d'une situation inconfortable dépend du regard qu'on porte sur elle. Donc soit on décide de faire de cette expérience eh bien un apprentissage, et auquel cas on passe en classe supérieure, soit on décide d'être finalement victime de quelque chose qu'on n'avait pas prévu, etc. Et là, on redouble. C'est-à-dire que dès lors que l'apprentissage n'est pas intégré, on redouble. On est à l'école de la vie, à l'école élémentaire, on a appris les maths.
Peu importe le résultat, finalement, voilà. Il faut l'avoir fait.
Et on apprend la vie. Et ce qui est formidable aussi, c'est que parfois, il y a des chemins détournés et que le temps investi sur des chemins empruntés sans succès n'est jamais perdu, puisque nos expériences viennent finalement se capitaliser. On ne perd jamais le capital des expériences passées. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est que la vie est un laboratoire, on est là pour essayer, pour tester, parfois ça marche et parfois ça ne marche pas et ça n'est pas grave.
Ouais. L'important c'est d'avoir essayé.
Voilà, et c'est surtout c'est qu'on apprend toujours aussi de nos apprentissages, on apprend toujours de nos expériences, donc rien n'est jamais perdu.
Vous avez compris que Charlotte ne parle pas des échecs, elle parle des apprentissages. Merci aussi. Je voulais juste qu'on termine avec Dounia qui attend depuis un moment et je ne voulais pas qu'on parte sans l'avoir accueillie. Bienvenue
merci.
Dounia.
Merci, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour à vous,
meilleur
bonjour
vœu.
À votre invité.
Bonjour Dounia.
Bonjour. En tout cas, vous avez une voix qui est super douce, super agréable à entendre et déjà vous apaisez énormément en tous les cas, mais bon.
Merci.
Il est question d'un livre, donc voilà, mais je vous remercie, je voulais juste vous poser une petite question, étant donné qu'en France, on est quand même le pays qui absorbe le plus d'antidépresseurs, on va dire, enfin, au niveau du pourcentage, c'est assez haut, et donc j'aimerais savoir pourquoi, enfin, pourquoi étant donné qu'il y a tellement de belles choses qui peuvent se faire de soi-même, et pourquoi donc...
Eh bien, tout simplement...
N'y arrivent vraiment pas.
Pourquoi on est les champions du monde,
voilà. Et, alors bon, parce qu'il y a tout un système. Bon, voilà, c'est un petit peu long à expliquer. Mais je pense aussi que parfois, vous savez, on préfère une béquille médicamenteuse que de se prendre en main. C'est-à-dire se prendre en charge, c'est être acteur de sa vie, ça demande du courage, mais la vie c'est du courage, ça demande de se prendre en charge, de se poser les bonnes questions, et parfois bon, on préfère museler finalement la problématique plutôt que de soulever le tapis et d'aller balayer la poussière qui y est, voilà. Donc c'est par facilité, par passivité, par fatalité. Voilà. Et après, il y a tout un système aussi. Bon, mais ça relève, d'un système aussi médical. Il y a aussi le lobbying des laboratoires pharmaceutiques, puisque je connais aussi très bien tout ce qui est. Je m'intéresse beaucoup à tous ces lobbying qui finalement.
Il n'y a pas des gens qui aiment être sous l'effet de ces molécules là qui sont.
Ah bah oui, parce que là on est plus, on est spectateur
dans les vapes, voilà.
Bah oui, on est passif, fataliste, ouais. Voilà. Donc le but c'est véritablement de prendre sa vie en main, parce qu'après si ce sont les médicaments qui finalement orientent nos choix, c'est quand même s'en remettre à l'extérieur, alors que les choix doivent dépendre de nous. Donc j'incite vraiment chacun à un moment à reprendre sa liberté. Et quand on arrête aussi à un moment des médicaments, c'est aussi un moyen de reprendre sa liberté, de reprendre son autonomie. Et véritablement, eh bien, c'est une sorte de maturité aussi affective à un moment de se dire, bah voilà, je vais m'occuper de moi, je m'aime suffisamment pour aller décrocher ma victoire et en faire profiter les autres, mon entourage et toute une société.
C'est mieux qu'une boîte de Prozac. C'est le livre de Charlotte Savreux. Ça s'appelle « L'année du déclic ». Et si c'était la vôtre, aux éditions Ballant. Je remercie beaucoup la personne qui a insisté pour que je vous rencontre et qui m'a dit que vous étiez formidable. Et à qui je fais confiance. Et elle avait bien raison, puisque vous êtes à l'image de votre livre. C'est un plaisir de vous entendre, Charlotte.
Merci.
Vous revenez
merci
quand Philippe. Vous voulez.
Avec plaisir. Merci pour votre invitation.
Et vous voyez, il a la pêche. Écoutez le docteur de Labo demain, lui aussi. Oui. Il a vraiment la pêche. À demain.